25 degrés en ce 9 octobre 2018. Est-ce que ce serait la première journée de l'été des Indiens? On ne sait pas, mais on sait que c'est une autre édition d'Aime la vie avec Emmanuel Robitaille avec vous pour la prochaine heure, accompagné de Robert Blondin. Bonjour Robert!
Bienvenue chez vous, Emmanuel.
Merci, bien installé sur mon sofa pour vous parler pendant les 60 prochaines minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de vieillir, des bonnes nouvelles, des choses le fun qui concernent l'idée de vieillir ou comment vieillir bien.
Je vais t'écouter attentivement.
Ah oui, j'entends déjà ta curiosité dans la voix. On reçoit également en studio Hélène Fournier, qui est directrice du secteur éducation à l'Office national du film. Elle nous parle du projet Océan qui a commencé le 4 octobre dernier, donc jeudi dernier. Tu nous parles de ce qui te réjouit encore cette semaine. Robert-François Baruel vient nous donner des bonnes nouvelles sur la santé. On écoute les fables de La Fontaine encore une fois pour se faire plaisir dans le cadre des 350e anniversaire de ces belles histoires aux morales toujours qui enseignent, on va le dire, qui nous rendent des personnes meilleures. Et finalement, les chroniques des Journées mondiales et internationales de la semaine seront encore au rendez-vous. Bienvenue à M'la vie.
Oh my God, my heart. It hurts now. I didn't know it till it tipped me upside down. Well, why am I confused? I'm feeling nervous, feeling I've got the right. Maybe it's my first time. I know these things they happen all the time. It's my first time.
Plaisir de la journée, premier plaisir pour s'assurer d'aimer la vie, c'était Meg Mac avec Maybe It's My First Time. Et on sait que la population mondiale est vieillissante. On sait que d'ici 2050, les personnes âgées de 60 ans et plus vont tripler, littéralement. Donc, c'est vraiment là ou jamais, ou jamais trop tard, mais quand même, ça serait une bonne idée de commencer à penser qualité de vie, de commencer à tripler également les possibilités ou les opportunités, les façons qu'on peut vieillir. Et il y a une initiative qui a débuté au Danemark, et on sait à quel point...
Ça part toujours de là.
C'est toujours... Et on sait à quel point je chéris ce coin de planète pour leurs idées, leurs innovations dans tous les domaines, dans tous les systèmes constamment. Et effectivement, on parle de la cohabitation entre amis en vieillissant plutôt que de s'institutionnaliser, c'est beau, je l'ai.
Se placer.
Plutôt que de se ramasser entre quatre murs puis qu'on trouvait ça bien, bien plate. Puis effectivement, on essaie de garder les réseaux sociaux solides et pour ce faire, on subventionne des logements qui remettent aux gens qui prennent l'initiative de rester en groupe ou de prendre soin les uns des autres, de s'accompagner. Ben, c'est eux qui ont le privilège d'avoir ces places-là. Robert, tu me regardes avec des yeux.
Je vais te dire pourquoi je te regarde avec des yeux comme ça.
C'est comme un point d'interrogation.
Moi, je suis à la veille de mes 80 ans, alors je sais où je m'en vais avec ça. Là. Et je fais partie des plus vieux bébés boomers, puis j'ai vécu en commune à l'époque, c'était la mode, etc. Et là, je revois ces gens-là, pour ceux qui sont encore vivants. Tout le monde reparle de commune, tout le monde veut s'acheter une abbaye où on va se retrouver à 15 ou 20 de ces vieux-là pour exactement faire ce que tu décris là. Donc, on en rêve encore. De là, acheter l'abbaye, il faut la trouver. Là. Mais il y en a une dans le sud de la France qui m'intéresserait, mais ça, c'est autre chose.
Oui, mais tu comprends quand même qu'il y a tout l'aspect de médication, tout l'aspect d'employé, de prise de soins.
Je visite ma mère régulièrement qui est en CHSLD là, ouais. En vieillissant. Je ne veux jamais vivre ça.
C'est ça.
Je suis prêt à toutes les initiatives pour éviter ça.
Mais je comprends.
C'est une horreur.
Je comprends. Et c'est prouvé que ça diminue la médication. Il y a vraiment des effets positifs sur l'aspect cognitif, l'humeur de ces gens-là qui choisissent de vieillir autrement et qui ont vu d'autres possibilités. Parce que souvent, on va penser que c'est l'inéluctable et que c'est ça. Nous, en vieillissant, on va se ramasser dans un CHSLD, ce qui fait qu'on a peur de vieillir. Mais on n'a pas peur de vieillir. On a peur d'aller dans un CHSLD et on ne fait plus la différence. Donc ça, c'est une initiative et sachez que ça se peut et qu'on peut le faire de notre propre initiative. Et un jour, qui sait, le gouvernement donnera peut-être des espaces et des allocations, des privilèges qu'on choisira de se tenir la main en vieillissant. Ça peut être, par contre, quelque chose de plus difficile quand on a justement des démences cognitives, comme ou n'importe quelle maladie qui, malheureusement, nous enlève de notre autonomie, qu'elle soit mentale ou physique. Eh bien, il y a dans un village, dans les Pays-Bas, j'ai trouvé ça vraiment adorable, plus précisément dans le village de Hodgeway, j'espère que je le nomme bien, sinon je suis désolée. De tout mon cœur, je l'aime quand même. Et ça s'appelle Dementia Town. J'ai fait, ben, le niaise. Ben non, il niaise pas. Ce sont les personnes atteintes de démence qui peuvent y vivre, mais c'est un village tout ce qu'il y a de plus normal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en apparence, il y a des épiceries, des théâtres, des restaurants, les rues. Il y a des rues, tout est adapté. C'est comme si on avait pris un CHSLD et qu'on l'avait transformé en village réel où il n'y a aucun dépaysement.
Ce qu'on fait en hauteur, on l'a fait en largeur.
Il n'y a aucun dépaysement, le mode de vie reste le même. Et ça permet aux gens de garder quelque chose de très, très intéressant au quotidien. On se demande, bon, OK, comment ces gens-là vont avoir accès à ces services-là? Comment ils payent? T'sais, les gens qui sont atteints d'Alzheimer, par exemple, ça peut être difficile pour eux. Ils n'ont pas besoin d'argent. Tous les frais nécessaires pour avoir accès aux services du village sont inclus dans le forfait de base pour y habiter. Donc, il n'y a vraiment pas de problème pour ça. Ils ont simplement à se promener et à y aller. C'est super sain. On recrée une vie normale. On s'assure de la liberté des gens. C'est 250 employés qui y travaillent quand même. Donc, on continue à créer de l'emploi. C'est beaucoup plus agréable. C'est peut-être une solution aussi contre l'aversion des emplois dans les domaines de la santé, qui est un sujet qui est quand même assez chaud présentement ici, du moins au Québec. Ça diminue l'utilisation de médication en plus et c'est un service gouvernemental, donc beaucoup plus abordable pour les bénéficiaires. Et je tiens à vous dire qu'actuellement, la place où c'est le mieux pour prendre sa retraite est, encore une fois, pour la deuxième année consécutive, la Norvège, pour ceux que ça intéresse.
Encore un jour à se dire que tout peut changer, changer le cours, tout revoir et recommencer. Il faut viser plus grand, 100 fois plus grand.
apportera nos frères un bout de bras. Et peu importe tout ce que l'on dira, on dessine chacun de nos pas. Cause we were born to change the world. Born to change the world. Cause we were born to change the world.
On vient d'entendre le cher Jérôme Couture avec sa nouveauté musicale, 100 fois plus grand. Je vous rappelle qu'à Aime la vie, on vous fait découvrir les sorties musicales au Québec, sorties musicales que vous pouvez consulter également sur le palmarèsadisque.ca. En studio, présentement, on a Hélène Fournier, qui est directrice de l'ONF, donc de l'Office national du film, qui vient nous parler d'un projet très, très profond, qui vient nous parler de l'océan. Bonjour, Madame Fournier,
bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, merci.
Merci. On vous entend pas au micro, on est-tu correct? Oui, c'est moi que vous entendez pas dans mon casque. Très heureuse que vous soyez là parce que jeudi dernier, vous avez fait un live Facebook, toujours branché. On va dire d'ailleurs que vous êtes directrice du côté éducation,
oui.
Donc vous innovez
oui,
constamment au niveau pédagogique. Vous l'avez fait également pour annoncer ce projet-là. C'est quoi?
L'École de l'océan, c'est un projet, c'est une expérience d'apprentissage web immersive interactive. Donc, l'élève, l'enseignant, même monsieur, madame, tout le monde peuvent se rendre au site puis apprendre l'impact qu'on a sur l'océan et l'impact que l'océan a sur nous via plein de technologies d'apprentissage, via différentes sortes de formats de vidéos. Ça peut être du format vidéo linéaire, ça peut être de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. L'idée, c'est vraiment d'amener l'océan dans la salle de classe et que les élèves, peu importe la technologie auquel ils ont accès, que ce soit un casque de réalité virtuelle ou même juste une tablette ou même juste un outil de projection comme un projecteur en classe, même juste un ordinateur.
Avec une toile.
Avec une
tout
toile,
ce
tout simple.
C'est destiné aux écoles, pas nécessairement à l'utilisation privée à la maison.
C'est destiné aux écoles, ça a été vraiment... Le design a été fait pour les élèves de 11 à 15 ans à travers le Canada. On a suivi les curriculums, les programmes d'études canadiens pour aller chercher la science, l'histoire, la géographie, les sciences sociales. Mais monsieur, madame, tout le monde, le plus jeune enfant aussi peut y accéder. Donc, on permet tout le monde d'accéder au site. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les différents programmes d'études et parler de la science, parler de l'histoire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on essaie de sensibiliser les gens sur ce qu'on appelle la littératie océanique, puis comprendre quel est notre impact sur l'environnement et l'impact que ça a sur les océans, puis l'importance de l'existence des océans dans notre existence à nous.
C'est ça. Comme un début, c'est de sensibiliser les gens justement à la sauvegarde des océans, quelque part, parce que si on veut comprendre notre impact, c'est parce qu'on veut que ça change, on veut les conserver.
Oui.
Comment on va comment on pense, en fait, que ce projet Océan-là va changer notre désir ou notre volonté ou notre propension à la,
oui.
à la sauvegarde de oui. nos océans? Parce qu'on le sait qu'il y a des sacs de plastique partout, là. Qu'est-ce que ça ajoute?
En fait, ça fait que ça devient une réalité. Okay. Le fait que c'est du film qu'on amène en salle de classe, c'est vraiment la réalité virtuelle, réalité augmentée. C'est prouver qu'on s'attache plus à ce qu'on apprend en étant immergé dans cet espace-là. Donc oui, ça crée la sensibilité, ça crée de l'empathie pour cet espace-là aussi. Donc la technologie que j'utilise, la raison d'avoir ces technologies-là, puis les amener en classe, c'est vraiment pour créer cet aspect d'appartenance-là. Mais il y a aussi toute une approche pédagogique qui fait que l'élève est beaucoup plus en charge de son apprentissage.
On a déjà des appels à la maison.
Allez-vous brancher, École de l'Océan. Oui,
je crois que je suis coupable.
Il est trop populaire. Robert, t'es populaire.
Donc, ce que je disais, c'est
Non,
pas de problème. L'approche pédagogique, on appelle ça une approche par enquête. Donc, l'élève est mis au centre, il est vraiment le maître d'œuvre de son apprentissage. Nous, on lance une grande question. Ça peut être, comme l'exemple du module qui est en ligne présentement, c'est comment, moi, en tant qu'individu ou comme citoyen canadien, je peux contribuer à la santé des habitats marins. Donc, on pose cette question-là aux élèves et on les lance dans plusieurs différentes ressources qui peuvent aller naviguer à leur propre gré. Et ils doivent se poser des questions eux aussi. Ben, c'est quoi un habitat? C'est quoi un habitat marin? Et quelles sont les différentes contributions et tout ça? Puis, on leur donne ensuite l'opportunité de déterminer par eux-mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire pour contribuer à ça. Donc, le devoir n'est pas spécifique. Il est plus, ben, voilà, donnez-nous des exemples de comment est-ce que vous pouvez contribuer à ça, puis selon leur intérêt et tout ça.
Donc c'est vraiment... c'est là l'aspect interactif, mais oui. aussi on travaille sur leur discernement dans la mesure où ils doivent...
Oui. Oui, c'est vraiment, on essaie vraiment d'aller toucher l'engagement citoyen, l'innovation sociale, si on veut, puis impliquer l'élève dans cette aventure-là, tout en rattachant au programme d'études pan-canadien.
Et en termes d'impact, parce que j'imagine que quand on investit de l'argent dans un tel programme, dans une école virtuelle comme ça, on s'attend à avoir des résultats, entre guillemets. Est-ce que c'est le cas? Si oui, comment on va les mesurer, ceux-là?
C'est une bonne question. C'est certain qu'on espère avoir de l'impact.
Ben, je le souhaite aussi.
On espère avoir de l'impact dans tout ce qu'on fait à l'ONF aussi, ben, parce oui. que c'est quand même... Les productions qu'on fait sont très à propos par rapport aux enjeux sociaux et tout ça. On n'a pas des objectifs mesurables par rapport à l'impact qu'on va avoir sur l'océan et l'environnement, mais on veut quand même avoir l'impact en salle de classe. Et la façon de mesurer ça, c'est de voir combien de contributions, on appelle ça des prendre action, parce qu'au lieu d'un devoir, on appelle ça un prendre action, agir. Et l'élève peut ensuite contribuer, partager ce qu'ils vont faire, soit dans leur communauté, soit personnellement, là, puis pour contribuer justement à la santé des habitats marins ou à l'impact qu'ils ont sur l'océan.
Et ils vont pouvoir le faire aussi sur les réseaux sociaux, je crois.
Ils peuvent le faire sur les réseaux sociaux, ils peuvent le partager. C'est tout intégré avec ce qu'on appelle Google Classroom. C'est une plateforme web que la plupart des enseignants à travers le Canada utilisent. Puis ça permet aux élèves de partager via cette plateforme-là à d'autres élèves, à d'autres écoles, à d'autres commissions
scolaires. Est-ce que vous savez combien de classes l'utilisent ou vont l'utiliser? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus?
On espère pouvoir avoir au moins 1000 classes qui vont s'inscrire dans cette année-ci. C'est pas beaucoup quand on compare le nombre d'élèves, le nombre de salles de classe qui existent au Canada, mais c'est notre objectif là, cette année, c'est d'aller chercher.
Et ça vient de débuter aussi, là, donc on va se donner une chance, mais pour ce faire, on va quand même donner l'adresse pour se rendre à tous les élèves. Si vous écoutez, vous êtes enseignant, vous êtes même parent, vous voulez que votre élève ait accès à cette nouvelle école virtuelle et interactive-là, rendez-vous sur le écoledelocean.ca et le mot-clé également pour suivre toutes les initiatives qui vont être prises par toutes les personnes, je le souhaite, qui iront sur le site, c'est École de l'Océan. On peut suivre tout ce qui sera fait sur cette école-là via les réseaux sociaux avec ce mot-clic-là.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Madame
Fournier.
Merci
à vous.
Confidence inaccessible, trop de silence, plus rien de crédible, plus de secrets, mystère révélé, ne plus
secret, mystère révélé, ne plus jamais cacher le passé, se libérer.
Laetitia Jimenez avec la chanson Secreto, si on n'avait pas deviné d'emblée. Secreto, Robert.
Oui.
Au-delà de ta popularité qui, je le souhaite, réjouit constamment, qu'est-ce qui t'a fait sourire cette semaine?
J'ai découvert ça, je l'avoue, à tout le monde en parle cette semaine, j'en revenais pas, de cette entreprise située dans la Petite Patrie à Montréal et dirigée par Frédéric Lalonde. J'ai découvert le gars que j'ai trouvé extraordinaire. C'est vraiment mon coup de cœur de la semaine et du mois et de l'année. C'est un développeur, c'est un programmateur informatique. Il était vice-président, il était à l'origine du développement de Expedia. Tout le monde connaît Expedia pour réserver des chambres, etc. Ouais, c'est très efficace. Mm-hmm. Bon, on s'attendra pas sur le sujet là-dessus, commercialement parlant, dans ces chambres-là. Et il a démissionné, il a vendu ses parts là-dedans. À 26 ans, il a fait plusieurs millions, mais ça ne s'assoit pas là-dessus, les millions. Il a développé...
Lui, il est vraiment là pour avoir des idées puis changer les choses.
Absolument, mais il est géré maintenant. Il a développé un site qui s'appelle, et notez-le bien, Hopper, H-O-P-P-E-R. Pour le moment, c'est en anglais, mais...
sauterelle,
oui. Il travaille... Hopper, oui, c'est
Hopper,
ça.
Grasshopper.
On saute d'un endroit à un autre, on voyage, ça, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour surtout des chambres d'hôtel, mais surtout des billets d'avion. Et il le fait de façon extrêmement brillante. Il va sauver jusqu'à 40 à 60 du prix des billets d'avion avec simplement l'a priori de prévoir vos voyages à l'avance. Il ne fait pas ça pour un mois. Il dit qu'on ne peut pas faire beaucoup d'économies, si on veut.
Si on est à seulement un mois d'avance.
Mais à 4, 5, 6 mois, voire un an, il trouve des prix extraordinaires. Il a pris des années à développer. Actuellement, au mois dernier, son entreprise, j'insiste, montréalaise, est évaluée comme valeur à 1 milliard de dollars.
Ben, en tout cas, en valeur, mais mon Dieu.
Voilà. Et ce gars-là travaille sur des concepts absolument intéressants. Il engage, bien sûr, des programmeurs. Il en a besoin. Et savais-tu qu'il manque actuellement pour des jeunes qui veulent faire des carrières, puis on ne sait plus où aller, puis on parle d'avoir des emplois, grands salaires, disait notre nouveau premier ministre, etc.? Il y a 30 000 offres d'emploi actuellement au Québec pour des programmeurs. Et ce sont tous des jobs de haut niveau de salaire. Okay? Lui a un immense bureau établi à Boston pour ramasser tout ce qu'il y a d'intelligence créatrice de ce côté-là pour les importer au Québec. Et on parle toujours de l'exode de nos cerveaux. Lui en importe. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Et il dénonce avec raison le fait que le gouvernement québécois, par exemple, investit dans la cité électronique, Ubisoft et compagnie, mais on finance ainsi des compagnies étrangères pour venir s'établir chez nous et utiliser nos ressources d'intelligence artificielle et de programmeurs et de tout ce qu'on voudra. On ne crée pas d'emplois. Ces emplois-là existent. On a l'impression qu'on crée des emplois. Pas du tout. On ne fait que aider l'étranger à venir utiliser nos ressources.
Lui dit capacités.
Non, restons chez nous. Alors, il y a des offres, et bien, c'est pour partir ailleurs avec sa compagnie et tout. Non, il va rester à Montréal, dans la Petite Patrie, et ça pourrait, au niveau du voyage, prendre l'ampleur de Amazon d'ici 4 ans. Actuellement, il double son chiffre d'affaires et d'affaires tout court. Ouais. Il double ça à tous les 17 jours.
Pardon?
À tous les 17 jours.
Il duplique son chiffre.
Oui.
Donc, c'est exponentiel aux 17 jours.
Exactement.
C'est au carré aux 17 jours.
Il gère ça de façon extrêmement humanitaire, humaine, intéressante. Et voilà un exemple là, où il faut aller très loin.
Est-ce que tu connais la mission ou les valeurs derrière tous les projets que cet homme-là, ce jeune homme-là fait?
Oui.
C'est quoi son but dans la vie?
Ce jeune-là veut inciter les gens à voyager, mais intelligemment. Il fait des choses, par exemple, tu demandes un billet, toi tu vas aller en Italie, OK? Tu demandes sur son site un billet pour Rome, tu vas aller en Italie. Il te dit, regarde, puis il n'y a peut-être pas pensé, mais je peux t'avoir ça beaucoup moins cher si tu arrives à Milan plutôt qu'à Rome. Donc, au lieu de juste chercher des chiffres, il va te proposer des alternatives qui vont t'aider. Même chose s'il voit que tu veux absolument un billet pour Hawaï, il voit très bien le système, hein, bon, fait qu'on voit, là, l'algorithme
Monsieur
voit que
ça t'intéresse. Monsieur Lalonde ne gère pas toutes nos demandes.
Il va te dire, oui, je vois que tu cherches du soleil, que tu cherches des palmiers, des plages. Il va te suggérer une île qui est peut-être dans les Antilles à la place, pour beaucoup moins cher et avec le même plaisir. Donc, il touche à la qualité des voyages, aux destinations et pas uniquement au prix. Un être exceptionnel, ressouvenez son nom, Frédéric Lalonde, une fierté du cheptel québécois dans l'intelligence artificielle extraordinaire.
Et on rappelle que c'est Hopper.
Hopper, H-O-P-P-E-R. Ne manquez jamais ce site.
Absolument. Merci, Robert. Midi 30 en cette édition d'Aime la vie du 9 octobre 2018, 25 degrés toujours, je crois. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie dehors, mais je pense que c'est ce qu'il annonce. On va souhaiter qu'on a topé le 20, au moins, à cette heure-ci. On est quand même au zénith du soleil à cette heure-ci. Emmanuel Robitaille avec vous, toujours en compagnie de Robert Blondin, pour les 30 prochaines minutes à l'émission. On aura François Baruel qui nous parlera santé. On aura également le moment tant attendu des chroniques, de la chronique des Journées mondiales et internationales de la semaine. Et on écoute, encore et toujours, une fable de Monsieur de La Fontaine. Restez là.
La route sera grande, lumineuse et fantastique. À chaque seconde, tout commence. En naissant, toujours on existe. Bien sûr, il y aura les murailles qui se dessinent à ton chemin. Avec les murs et les feuilles, on s'en fera des maisons. Je t'aime d'un amour qui n'existe pas encore. Il me faut l'inventer toujours. J'ai pas les mots, le silence est pas assez fort. Avec laquelle tu aimeras orageusement sans tempérance, parce que demain t'endra pas. Pour toi je ne veux que le sublime, la funambulesque beauté. Pour toi je n'espère que la cime et les ailes pour y aspirer. Et bienheureux celui qui ose, il vivra jamais à petit feu. Et c'est la part qui en kilose vide est tellement.
la toujours touchante Ingrid Saint-Pierre qui nous touchait, oui, qui nous chantait La Lumineuse. Et on a en studio présentement François Baruel.
Bonjour. Bonjour.
François, comment ça va?
Très bien, et toi?
Oui, on dirait que je me suis adoucie avec Ingrid. Mais je reviens à toi. Et aujourd'hui, tu as quand même 6 minutes, top chrono, pour nous convaincre, moi, Robert et ceux qui nous écoutent, que les organismes génétiquement modifiés, les OGM, c'est bon pour la santé.
Voilà,
minuteur parti.
Top.
Je t'écoute très attentivement.
Eh bien voilà, encore une bonne nouvelle en médecine. Et oui, décidément, la science avance très très vite pour nous soigner en réalité. Mais bon, si ça semble mystérieux, c'est très simple à comprendre. Vous allez voir. Donc je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que le rôle des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T, ce sont des tueurs qui sont là pour nous soigner, pour nous protéger contre tout ce qui est étranger à nous ou dangereux pour nous.
C'est-à-dire c'est la garde protégée,
c'est la garde particulière de notre corps. Donc ça nous protège contre toutes les cellules, y compris cancéreuses. Donc la semaine dernière, on avait parlé des lymphocytes T qui étaient rendus aveugles, d'accord, et qui étaient paralysés en présence des cellules cancéreuses et sur lesquelles... Pour le rendre leur mouvement, il fallait mettre une cape, hein, vous vous souvenez, sur le piton.
Oui, parce qu'ils ne faisaient pas leur travail d'attaquer.
Exactement.
Sur les cellules cancéreuses. Donc, en leur mettant une petite cape, c'est comme si là, ils allumaient.
Voilà. Alors là, on va avoir une autre méthode.
On reste dans l'immunothérapie.
C'est toujours l'immunothérapie.
Ouais.
Mais on va avoir une autre méthode qui fait intervenir aussi des lymphocytes T. Et ça, c'est spectaculaire, en fait. Alors, on rappelle que les lymphocytes T ne reconnaissent pas toujours les cellules cancéreuses, puisqu'elles se comportent comme les cellules de notre corps.
Oui.
En fait, elles ont une petite différence. Voilà, elles se camouflent, exactement. Elles dérivent de notre corps, donc ce sont nos cellules. Donc les lymphocytes T ont du mal à les reconnaître. Donc, ils ne sont pas très efficaces, les lymphocytes T, ils ont du mal à attaquer. Bon. Et là, l'idée géniale, c'est on fait fabriquer aux lymphocytes T des anticorps correspondant exactement aux antigènes différents de nos cellules qui sont sur les cellules cancéreuses. C'est-à-dire qu'on trouve la spécificité des cellules cancéreuses, les antigènes différents, et on apprend aux lymphocytes T, par une manipulation du génome, à fabriquer des anticorps. Et là, ils sont actifs.
Je veux juste m'assurer que je comprends. Donc, disons que je fais un clone de toi et que la seule différence, c'est que ton clone a un grain de beauté sur la joue et pas toi. On est en train de développer des choses pour qu'il voie les grains de beauté de ton clone et qu'on attaque.
Une reconnaît... version de toi améliorée.
Et... Merci, t'es gentil, Robert.
Donc là, ça serait le grain de beauté d'en face de ton clone qui serait la nouvelle cible de destruction parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on le reconnaît
que
c'est pas
toi. C'est pas la cible, c'est que le grain de beauté permet aux lymphocytes T de me reconnaître.
Mais c'est... Oh.
C'est pas la cible, c'est il me reconnaît.
Parce que t'as pas de graines de beauté.
Voilà. Donc il reconnaît les cellules cancéreuses pour ça. D'accord?
Bravo. Bon.
Mais alors pour ça, il faut donc faire une petite manipulation qu'on appelle une modification du génome. D'accord?
Oh, de là,
parce
cet
qu'en
organisme
fait, c'est,
vivant.
C'est complètement pas modifié. Naturel pour le lymphocyte T de faire ça. Donc, on est obligé de le modifier un peu.
Donc, on modifie génétiquement ça change son fonctionnement,
voilà.
La manière dont il fonctionne.
On lui ajoute une fonctionnalité.
Eh bien.
Et c'est pas du tout naturel.
Et actuellement, on en est où avec cette nouvelle technique-là?
Alors, avec cette technique-là, on en est à des résultats assez importants. Tu veux les chiffres, par exemple?
J'y veux toutes.
Tu les veux toutes? Je voudrais quand même dire que c'est une chimère. C'est important.
Vrai.
Il y a une chose, alors je vais te dire tout de suite les chiffres, c'est qu'il y a 83% de taux de rémission à 3 ans des patients, enfants et adultes jeunes jusqu'à 25 ans, avec une leucémie aiguë réfractaire, c'est-à-dire qu'ils étaient condamnés. Et à 3 ans, on a 83% de taux de rémission.
Disponible ici?
Oui. Oui, alors attention. Très bonne question. Il y a aussi un autre chiffre, c'est 40% de rémission complète 15 mois après le traitement avec dans un lymphome diffus résistant à tous les traitements.
C'est bon?
Mais non, oui, c'est très très bon et je pense que c'est l'avenir qui va. C'est vraiment l'avenir. Mais en fait,
ce qui est intéressant aussi, c'est que ce pourcentage-là augmente avec les années, non pas diminue.
Bien
on a 40% à 15 mois
sûr.
Et on a 83% à 3 ans. C'est pas
c'est
le contraire.
Pas les... Attention,
c'est
j'ai bien dit leucémie aiguë 83% et lymphome 40%. C'est pas les mêmes maladies.
Ok, c'est
hein.
pas les mêmes
Attention,
maladies quand même.
C'est pas les mêmes maladies. Par contre, il y a des effets secondaires, étant donné que ce sont quand même des cellules de notre corps. Donc actuellement, on n'est pas suffisamment précis pour ne pas cibler aussi, je sais pas, le cœur ou un rein. Vous voyez le problème, c'est que pour le moment, c'est pour ça qu'on le réserve vraiment à ceux qui sont condamnés, entre guillemets, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Alors, certains, en fait, la plupart d'ailleurs, pour le moment, s'en sortent bien. Parfois, ils mettent du temps après à récupérer, mais ils sont guéris de les 83%, là, ils sont quand même en rémission complète. On va de plus en plus affiner. On va pouvoir trouver justement le petit grain de beauté de plus en plus petit, comme tu disais tout à l'heure, qui va permettre de repérer exactement la cellule. Et on pourra cibler ensuite les cellules cancéreuses, exactement la vraie cellule cancéreuse de tel cancer, et non plus taper un peu large.
Je pense qu'il y a beaucoup de recherches hein, sur les modifications du génome, comme ça, pour un tas de maladies, un tas de choses. Le danger, c'est une forme d'eugénisme, alors, où on dit, bon, tu m'enlèves mon gène de cheveux rouges, je vais avoir des cheveux noirs, là.
Mais ça, on en est loin quand même.
Ah ben, c'est fait. On est loin dans le temps parce que toute l'histoire du docteur Frankenstein, c'est ça.
Hein? C'est, mais tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr.
Mais ça viendra peut-être à ça, mais on a déjà vécu le traumatisme, la journée où on a pu deviner ou savoir le sexe de notre enfant avant la naissance. Il y a toujours des petites surprises comme ça, je suis sûre qu'on va se faire. Sincèrement.
N'oublie pas une chose, ça s'appelle le CAR-T-cell, c'est-à-dire CAR, c'est chimérique, antigène. Ah. D'accord. C'est une chimère. La chimère comme Pégase, le cheval ailé, comme tous ces monstres mythologiques, etc., sont des animaux qui n'existent pas, qu'il faut fabriquer, en fait. Donc c'est une chimère, cette lymphocyte T. Hein, voilà, d'accord.
Un genre de licorne, tu sais.
Une licorne, voilà. Donc, ben, tu vois comme
merci
quoi.
Merci pour les licornes cellulaires. Voilà. Et en conclusion, oui, la chimère.
Eh bien, non, l'OGM, c'est comme la langue des hommes. Hein, c'est le meilleur et le pire. Hein.
Heureusement.
Qui l'eût cru?
Je ressens encore cette brise qui me libère de leur emprise. Je m'arrête un instant, j'oublie ce que les gens disent. Et puis je me demande pourquoi, pourquoi ma vie est grise. Je me noie dans mes petits malheurs, mais je vais nager vers la rive. Des fois faut savoir lâcher prise, tourner la page de son livre. Je vais prendre mon baluchon, partir vers l'horizon. Je vais prendre mon baluchon, je me poserai plus de questions. J'ai envie d'un peu d'air pour partir à l'aventure. Je vais suivre le courant de la vie, puis pour le reste, tant pis. Vrababumbay, zabedarabay, zabedarabababababay. J'ai envie d'un peu de liberté, pas de problème qui m'épuise. Mais je tombe toujours dans le panneau, je m'attache et je m'enlise. Et puis souvent je regrette, après je le réalise. Ça me donne juste envie de partir, partir faire mes valises. Des fois faut savoir lâcher prise, tourner la page de son livre. Je vais prendre mon baluchon, partir vers l'horizon. Je vais prendre mon baluchon, je me poserai plus de questions. J'ai envie d'un peu d'air pour partir à l'aventure. Je vais suivre le courant de la vie, puis pour le reste, tant pis. Tout ce qui me rend maussade, je pars comme un nomade, baluchon sur l'épaule, un bonheur qui me frôle. Je marche droit devant, je décide de vivre dans le présent. C'est fini, je lève l'ancre, je veux aller voir qu'est-ce que je mange. Des fois faut savoir lâcher prise, tourner la page de son livre.
suivre le courant de la vie, puis pour le reste, tant pis.
La chanson Baluchon du groupe Les Jack, chanson tirée de l'album Levez l'encre. Levez l'encre, E-N-C-R-E, comme l'encre d'une plume. Et parce que ben, les paroles s'envolent et les écrits restent, qui est un dicton fort connu et qui est vrai, même si les paroles peuvent des fois être gravées dans un cœur, bon, pour les bonnes ou des mauvaises raisons.
C'est un joli jeu de mots.
C'est selon. Hein? Oh, ouais. Mais ça fait en sorte qu'on peut fêter les 350 ans des écritures aussi importantes que celle de Jean de La Fontaine, qui nous écrit des fables, qui nous a écrit des fables fabuleuses. Et dans le cadre de ce 350e anniversaire, on se fait plaisir et on se propose une fable hebdomadaire. Et cette semaine, la fable s'intitule « Le meunier, son fils et l'âne », une fable qui nous parle de décision. Oh, Maurice. Maurice en régie me dit « Mon Dieu, je pense que c'est pas elle que j'ai, Manu. » T'as quoi, Maurice? Le chat et le vieux rat.
Ben, il est aussi bien de se décider, le rat, parce qu'il va se faire manger par le chat.
Ben, moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de tricher un petit peu. Et ah, tu l'as? Ah, je suis contente. On l'écoute.
Le meunier, son fils et l'âne. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit. Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et ruste. Le premier qui les vit, de rire s'éclata. « Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des trois n'est pas celui qu'on pense. » Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure. Il fait monter son fils. Il suit et, d'aventure, passe trois bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux garçon s'écria tant qu'il put « Hola, oh ! Descendez, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait laquais à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. » L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit « C'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud comme un évêque assis fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. » Après maint quolibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit « Ces gens sont fous. Le baudet n'en peut plus. Il mourra sous leur coup. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils pas de pitié de leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois, si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne, se prélassant, marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit « Est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers et conservent leur âne, Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête et la chanson le dit. Beau trio de Baudet. » Le meunier repartit. « Je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. » Il le fit, et fit bien. Quant à vous, suivez Mars ou l'amour ou le prince, allez, venez, courez, demeurez en province, prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement, les gens parleront, n'en doutez nullement. »
Et la morale de cette histoire, toujours pour nous rendre un humain un petit peu mieux chaque jour, en tout cas, on l'espère, c'est... Qu'est-ce que t'en tires, toi, Robert?
Oh, la morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de parti politique parfait. Vous pouvez changer d'idée quand vous voudrez.
Ben, c'est un peu... Non, mais
c'est un peu ça. Tu peux changer d'idée, puis après...
T'sais? Ben, tu peux changer d'idée, mais il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, la vie est faite de petites et de grandes décisions.
On ne voit pas les choses de la même façon. Toi, tu peux voir ce tableau-là, puis y voir une araignée, je le regarde, puis j'y vois un tigre. Bon, c'est normal, c'est dans la vie.
Et quand on prend des décisions, ben aussi bien l'assumer, parce que faire à sa tête, des fois, ça fait du bien. Et de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, il y aura toujours quelqu'un pour en dire quelque chose sur ce qu'on va avoir choisi.
Comme dit la femme, on va pas plaire à tout le monde et à son père.
Chaque nuit, ma tête en deux cauchemars. J'ai brûlé de chaque côté, la fumée me jette des tours. Je fixe ton visage qui n'est plus le tien. Je m'amuse à faire des parts en disant que rien de tout ça qui est vrai. Pendant que je me brûle pour des petites scènes, j'ai plus envie d'être sa proie, des derniers jusqu'aux os. Espérant que la nuit s'endorme avec mon cuillère, je m'amuse plus pantoute, j'ai vraiment perdu du temps qui me presse.
Claudel qui chantait la chanson « Pleine lune », chanson que l'on trouve sur l'album « Opale ». Et c'est le moment de la déchirante, agréable mais déchirante, chronique des journées mondiales et internationales de la semaine. Déchirante parce qu'encore une fois, sur 39 journées, j'ai le temps d'en proposer environ 4 à 6. Et il y a des gros morceaux cette semaine. Donc, on y va tout de suite avec les journées internationales et mondiales de la semaine du 9 au 15 octobre. Le 9 octobre, ça c'est aujourd'hui, journée mondiale du handicap. Parce que oui, à côté de la journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre prochain, on aurait également une journée consacrée au handicap lui-même, malgré que ça reste assez flou, sincèrement, sur le plan des gestes concrets lors de cette journée-là, c'est vraiment pas clair. On peut quand même aller consulter la Convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées, une initiative de l'organisme non gouvernemental Handicap International, ou Handicap International, qui veut que cette réalité soit reconnue par les instances gouvernementales, projet conjointement mené avec l'ONU. 10 octobre, donc demain, Journée mondiale contre la peine de mort, qui a été souligné pour la première fois en 2003, une initiative de la Coalition mondiale contre la peine de mort qui regroupe des ONG, des syndicats, oui, des collectivités, des groupes qui se rassemblent autour de ce but commun qui est l'abolition de la peine de mort, coalition dont Amnesty International fait partie, entre autres. En 2018, pour sa 16e édition, cette journée met l'emphase sur les conditions de vie dans les couloirs de la mort. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez aucune information ou que vous ne savez absolument rien de comment ça se passe dans le couloir de la mort, vous pouvez aller consulter immédiatement ce que le mouvement propose, parce qu'il y a une foule d'informations sur le site www.worldcoalition.org.
Est-ce que tu sais combien d'États américains ont encore la peine de mort?
Je l'ai lu et je ne m'en rappelle pas, Robert.
17 États américains.
Ah, 17 États américains, j'étais dans les pays, moi, c'est beaucoup trop.
17 États,
c'est des dizaines.
Américains, des dizaines, aux États-Unis.
Sur 52, on est à 52 États, je crois, 53, en tout cas, c'est beaucoup, trop, c'est incroyable. Donc, demain, on milite pour ça. Demain également, Journée mondiale de la santé mentale. Les jeunes et la santé mentale dans un monde en évolution, c'est le titre qui nous attend cette année pour cette journée chapeautée par l'ONU. Phare sur l'adolescence et les premières années de la vie adulte où les changements de vie sont grands et donc les stresseurs sont multiples, tous à même d'être des précipitants pour un trouble de santé mentale. On parle également de l'augmentation de l'utilisation des technologies et des réseaux sociaux par les nouvelles générations qui peuvent également entraîner des pressions supplémentaires, pressions sociales surtout. Comme la moitié des troubles de santé mentale apparaissent avant l'âge de 14 ans et que la prévention est préférable au traitement, on se penche sur ces nouvelles réalités de nos jeunes pour mieux assurer une résilience et un équilibre psychologique. 11 octobre, Journée internationale des filles, qui siège à côté de la Journée de la femme. Hein? Et qui, je ne connaissais pas, j'étais ignarante de cette journée mondiale. Et pourtant, reconnue officiellement par l'ONU en 2012, c'est pour les 1,1 milliard de jeunes filles, on parle des adolescentes, des préadolescentes à ce moment-là, à travers le monde, que cette journée-là, elle est consacrée à leurs droits, à l'éducation, par exemple, et à leur défense également contre la violence. Cette année, le thème de cette journée, c'est avec elles, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles pour élargir les opportunités d'apprentissage et pour faciliter et assurer leur passage au monde de l'emploi qui actuellement n'est pas très facile partout.
Ou à la santé tout court, quand on regarde à qui a été remis le prix Nobel de paix cette année, on comprend pourquoi. Oh. C'est ce médecin qui reconstruit les organes génitaux qui ont été vraiment malmenés pour rester poli.
Pour regarder ça ouais, acceptable à l'oreille, on va se le dire ainsi. Mais oui, c'est une pratique qui existe encore.
Effrayant.
Oui, et étonnant, surtout qu'en 2018. C'est pour ça qu'il faut regarder parfois ailleurs. Le 13 octobre, on s'invite également à se prévenir des catastrophes naturelles en diminuant les coûts économiques que celles-ci engendrent pour les pays et les nations qui sont touchées. Le 15 octobre, on parle de la Journée mondiale de la canne blanche, outil absolument essentiel lorsqu'on perd la vue. C'est le 13 octobre 1930, par une Parisienne, Guy d'Herbemont, que cette canne a été inventé. C'était les Journées mondiales et internationales de la semaine. Et c'est tout pour nous pour cette semaine également. Merci d'avoir été à l'écoute.
On se revoit la semaine prochaine, non?
Ben, tout à fait. Merci Catherine Bourdoron à la recherche. Merci Maurice en régie d'être toujours là pour assurer nos arrières. Et merci à vous d'avoir été là. Merci Robert. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.